Quelle est la différence entre l'enseignement catholique et l'enseignement public? Vous avez dans les deux cas des établissements de qualité. Vous avez dans les deux institutions des professeurs qui sont impliqués et d'autres qui sont plus en dilettante. Vous avez des bons résultats dans l'un et l'autre cas. Ce n'est pas du côté de la réalité de l'enseignement qu'il faut chercher la différence, mais du côté de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dans l'enseignement catholique, quand il est conforme à sa vocation, il prend l'enfant, le jeune, dans toutes les dimensions de son être, pas seulement l'élever intellectuellement, lui donner des diplômes, mais aussi dans sa réalité ultime, dans la vie éternelle. Au fond, oui, c'est cette vocation particulière de prendre la personne humaine jusque dans les réalités des fins dernières, cette vie éternelle où nous serons amenés à contempler Dieu. La vie éternelle, vous le voyez, et c'est un exemple, et je vous en donnerai d'autres, a des conséquences très concrètes. Par exemple, quelqu'un qui a la foi et devient parent. Et quelqu'un qui n'a pas la foi et devient parent. Alors, vous me direz, c'est quoi? Ils sont parents dans les deux cas? Oui, oui. Mais quand on a la foi et qu'on devient parent, on met son enfant au monde pour la vie éternelle. Quand on ne croit pas à la vie éternelle, on met son enfant au monde pour la fausse, par définition. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de possible, il n'y a pas d'espérance. Je trouve ça intéressant de dire comment cette réalité, qui est mystérieuse, cachée à nos yeux encore, parce que nous avons les saints qui ont pris au sérieux la vie éternelle et qui en ont vécu, et en cela nous les fêtons aujourd'hui, ceux qui sont canonisés par l'Église, mais aussi tant d'hommes et de femmes qui ont vécu au sérieux cette présence du Seigneur dans leur vie, leur baptême, la grâce du baptême, là aussi le fait de baptiser un enfant, c'est déjà permettre que la vie éternelle agisse en lui, le royaume de Dieu soit déjà actif. Je trouve ça intéressant de dire, tiens, au fond, nous sommes invités à travers cette réalité de l'éternité, de revoir notre réalité terrestre de façon tout à fait différente. Nous avons un autre regard, d'autres lunettes. Nous prenons conscience que ce que nous vivons ici-bas retentit dans l'éternité. Ce que nous vivons ici-bas va plus loin que nous-mêmes, va vers un au-delà, vers un possible, vers un ailleurs. Ce que nous vivons ici-bas a une densité, et même la manière de concevoir le temps est différente. Nous croyons que le monde a eu un commencement, mais nous croyons aussi que le monde aura une fin. Et à la fin du monde, quand Dieu sera tout en tous, eh bien voilà, c'est cette invitation à vivre ce temps comme un temps fléché. Vous voyez, par exemple, les Asiatiques, singulièrement dans le bouddhisme, ont un temps circulaire avec la réincarnation. Nous ne croyons pas ça. C'est respectable, mais nous ne croyons pas ça. Ce que nous croyons, c'est que nous allons vers une plénitude et que ce monde dans lequel nous sommes, c'est la préparation à une plénitude. Mais ça veut dire aussi quelque chose d'autre. Ça veut dire que n'attendons pas de ce monde une plénitude. Et c'est intéressant dans les béatitudes que le Seigneur nous livre. On voit comme cette forme de tension dans certaines d'entre elles, en tout cas, heureux les pauvres. Comment est-ce qu'on peut être heureux et être pauvre? Comment est-ce qu'on peut être heureux et persécuté? Comment on peut être heureux et insulté? Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur à travers ces béatitudes? Il dit acceptez de vivre la tension dans ce monde pour vous préparer à l'au-delà. Et si j'accepte cette tension-là, si j'accepte de vivre ce déjà et pas encore, oui, déjà la vie éternelle est au milieu de nous, le royaume de Dieu, il est au milieu de nous, c'est ce que nous dit le Seigneur, mais pas encore dans la plénitude. Si j'accepte de vivre ça, si j'accepte de vivre d'une certaine manière un peu écartelé, parce que quand on est croyant, on est aussi écartelé. On a le désir, on a eu une expérience de Dieu. Mais on voit bien que dans la réalité déjà de notre vie, nous ne sommes pas toujours conformes à cette expérience de Dieu. Mais surtout, le fait de savoir que nos actes retentissent dans l'éternité, ça donne à notre vie une densité, une puissance. Une force. Nous sommes la religion du vertige. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que nous retrouverons dans l'au-delà nos actes d'amour désintéressés. Et on voit dans la vie des saints qui nous sont proposés comme modèles, ils ont vécu de ça. Nous croyons que dans la réalité modeste, humble de notre vie, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Et c'est tout le sens des sacrements. Un peu de pain, un peu de vin, un peu d'eau versée sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, et c'est le ciel qui s'ouvre. Nous le croyons. Le chrétien a une manière particulière de vivre ce monde. Et nous, comme religieux, cette réalité de la vie éternelle est absolument centrale. Nous ne sommes pas ici parce que nous aimons la Picardie ensoleillée. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons une affection pour les monuments historiques. Mais parce que nous avons fait profession de vie éternelle. Comme religieux, je ne dis pas prêtre, religieux. Le religieux, le consacré dans le célibat, dans les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, fait profession de vie éternelle. Alors, on n'est pas meilleur que les autres, on a les mêmes combats que tout un chacun, ce n'est pas la question, mais on veut juste être un poteau indicateur. Pour ceux qui voudront bien reconnaître une direction. D'autres seront complètement fermés à cette réalité, libres à eux. Et puis on peut changer au cours du temps. L'âme ne reste pas égale en permanence, nous dit notre fondateur. Il y a des moments où on est en révolte contre Dieu, il y a des moments où on ne veut plus croire, des moments au contraire de fulgurance. Je trouve ça beau de dire, tiens, comment cette certitude de la vie éternelle qui est vraiment l'espérance qui nous habite vient colorer au fond notre réalité. Et par exemple, loin de nous désintéresser, parce qu'il pourrait y avoir cette tentation, on se dit, oh ben c'est la vie éternelle, mais ce monde ne m'intéresse pas. Non. Loin de nous désintéresser des réalités humaines, nous sommes impliqués, et l'Église, on le voit bien dans son histoire, a été au seuil, au plus loin de la pauvreté humaine pour manifester la dignité de la personne humaine comme étant appelée à contempler Dieu et à lui devenir semblable. Donc, la vie éternelle fait que je suis encore plus impliqué ici-bas, parce que je fais le lien. Et les saints, ce sont ceux qui ont vécu de ce lien. C'est intéressant d'être attentif à cette réalité et d'être nous-mêmes dans cette dimension d'accueil du monde dans lequel nous sommes, sans lui demander davantage, sans demander plus, et singulièrement dans nos relations interpersonnelles. Je suis plus dédié dans mon ministère à accompagner des couples. Et c'est important de savoir que dans la vie de couple, on n'a pas la vocation à combler l'autre. Ce serait une forme d'idolâtrie. Ce serait mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Et c'est intéressant que, par exemple, dans les noces de Cana, qui singulièrement est l'évangile choisi bien souvent dans les mariages à l'église, eh bien, il y a un manque. Ils n'ont plus de vin. Signe que, dans ces relations humaines, il y aura toujours un goût d'inabouti. Un goût de plus. Mais aussi une invitation à accueillir la limite, le manque. Ils n'ont plus de vin. Je trouve ça c'est très beau de faire ce lien, justement, parce qu'on peut, en contemplant l'éternité, vite se détacher, de devenir des grands idéalistes. Les saints ne sont pas des idéalistes. Les saints sont des hommes et des femmes qui avaient les pieds bien enracinés sur le plancher des vaches. Et en cela, ils sont modèles, à la fois la tête au ciel et les pieds dans la réalité humaine. Vrai Dieu, vrai homme. Et cette tension-là, nous sommes invités à la vivre comme étant aussi un lieu de sanctification. Vous le savez, dans la tradition juive, la notion de terre sainte n'existe pas. Mais c'est une terre qui sanctifie, parce que dans leur tradition, Dieu seul est saint. Et quand vous voyez cette terre sainte, c'est une terre qui, à la fois, ruisselle l'eau et le miel, et à la fois, déjà dans l'Ancien Testament, était habitée par nombre de batailles, où il y avait les Jébuséens, les Hittites, et toute forme de réalité adverse contre lesquelles le peuple hébreu devait lutter. Et c'est la terre qui sanctifie. C'est intéressant de voir les choses comme ça, et on peut dire que depuis les temps bibliques, la réalité n'a pas vraiment changé de cette chère terre sainte. C'est une terre où, au fond, on accepte d'être dans un combat intérieur. Et à la fois, il y a une abondance, il y a une luminosité, il y a une fulgurance. Comme c'est beau de vivre ainsi. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre foi? Comment elle nous rend lumineux? Comment elle nous permet de ne pas désespérer, d'abord de nous-mêmes, et puis ensuite des autres et de cette réalité qui nous entoure, qui est une réalité, depuis le péché originel, en tension. Et on voit bien que, si vous êtes attentif à la géopolitique, cette tension, elle est toujours ici, mais cette tension, sans parler de guerre, etc., elle est aussi en nous-mêmes. Parfois dans les relations familiales, les relations communautaires. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la tension qu'il n'y a pas déjà un infini, comme une aurore qui se lève. Vous savez, dans la tradition juive, ils voient le paradis comme notre terre, mais avec une plénitude. Il y aura un nouveau paradis terrestre. Ce n'est pas notre foi. Nous sommes invités à renoncer au paradis terrestre. Mais comme nous dit le livre de l'Apocalypse, nous croyons aux cieux nouveaux, à une terre nouvelle, une nouvelle manière d'être en Dieu que celle que nous connaissons ici-bas. Ce qui permet de ne pas désespérer, ce qui permet que dans les pérégrinations, les difficultés de notre vie, de notre existence, eh bien nous avons une invitation à nous remettre dans l'espérance. Mais si on attend d'être comblé par cette vie terrestre, forcément on sera déçu, forcément. Si on attend d'être comblé dans la relation, forcément il y aura un goût de pas assez. Alors je trouve cette belle fête de la Toussaint, elle nous redonne un dynamisme, une lumière. Elle nous redonne une espérance. Elle nous remet en route. Elle nous fait écouter Jésus qui, lui aussi, a vécu et ô combien cette tension, mais par sa croix, sa résurrection, nous a permis d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.